Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 6 juin 2017, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. On est le 5.
Pour commencer, les titres. Au Cameroun, mouvement d'humeur au sein d'éléments de l'armée au front contre Boko Haram dans l'extrême nord.
Sommet hier à Monrovia de la CDAO en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
À Londres, arrestation hier de 12 personnes au lendemain de l'attentat meurtrier revendiqué par le groupe État islamique.
La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen exclut le Qatar en raison de ce qu'elle a appelé son soutien au terrorisme.
Nouvelle réaction aux États-Unis et ailleurs dans le monde à la décision du président Donald Trump de retirer son pays de l'accord de Paris sur le climat.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, mouvement d'humeur ce week-end d'une trentaine de militaires au front contre la secte Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Ces militaires font partie du contingent de la force multinationale mixte. Une affaire de primes non reversée est au centre de ce mouvement d'humeur, vite jugulée selon un responsable de l'armée camerounaise que cite notre correspondant Emmanuel Juntap.
Les militaires camerounais au centre du mouvement d'humeur sont pour la plupart de jeunes recrues de 2015. Dimanche matin, quelques éléments du bataillon de troupes aéroportées ont barré la route de Ouaza dans le département de Logone et Chari, frontalière au Nigeria. Cette action était la deuxième du genre après celle de la veille, conduite cette fois par les éléments de l'armée de l'air appartenant à la même force multinationale, nous révèle une autre source. Les éléments du Cameroun de la force multinationale mixte sont pris exclusivement en solde mensuellement et n'ont pas droit aux primes particulières, affirme un haut gradé de l'armée camerounaise que nous avons contacté. Mais, sur décision du chef de l'État, des primes peuvent leur être accordées. En l'état actuel, ces militaires camerounais n'ont pas d'aïré. Leur acte est commenté par les hauts gradés comme de l'indiscipline, mais l'opinion s'interroge cependant au Cameroun sur l'existence ou pas d'un problème de primes au sein de cette force multinationale. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a souligné hier la nécessité de maintenir les enfants à l'école dans le sud-est du Niger. À cause de Boko Haram, des établissements scolaires sont en effet fermés depuis 2 ans dans la région de Diffa. Jean-Roger Bion fait le point.
Marie-Pierre Poirier, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest, est rendue à Diffa, dans le sud-est nigérien. Selon elle, les écoles et les enseignants sont très ciblés par Boko Haram. Pour enlever la possibilité aux enfants d'apprendre, et il faudra tout faire pour les maintenir à l'école. Dans cette région, les établissements scolaires ont été mis à sac ou incendiés par Boko Haram, qui signifie « l'éducation occidentale est un péché ». Dès les premières aides en 2015, 166 écoles ont été désertées. Un an après, 99 écoles ont été réinstallées dans des endroits plus sûrs avec un dispositif sécuritaire et des plans d'évacuation en cas d'attaque. En revanche, toujours selon l'ONU, une trentaine d'écoles sont toujours fermées dans des localités proches de Lac Tchad et sur les bords de la rivière Komadougou-Yobé qui sépare le Niger du Nigeria, des zones difficilement contrôlables.
La CDAO a tenu hier un sommet à Monrovia en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Du coup, le roi du Maroc a renoncé à venir. Le point avec Idriss Fall.
Benjamin Netanyahou a été accueilli à son arrirée à Monrovia par Ellen Johnson Sirleaf, présidente en exercice sortante de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le premier ministre israélien a dit réaliser un rêve en assistant à ce sommet. Monsieur Netanyahou, qui a déjà effectué en juillet 2016 une tournée en Afrique de l'Ouest, s'est félicité d'un changement d'attitude envers son pays. Il a réitéré son souhait de voir Israël retrouver auprès de l'Union africaine le statut d'observateur qu'il avait au sein de l'Organisation de l'Unité africaine jusqu'en 2002. Monsieur Netanyahou doit d'ailleurs revenir dans la région en octobre prochain pour une conférence Afrique-Israël au Togo. Le roi du Maroc, Mohamed VI, dont la CDAO devait examiner la demande d'adhésion à l'organisation sous-régionale, a renoncé à venir au sommet en raison des tensions, selon Rabat, dues à cette invitation adressée au premier ministre israélien.
Malgré l'absence du roi Mohamed VI, la CEDEAO a donné son accord de principe à la demande d'adhésion du Maroc. S'agissant de l'accord d'association avec la Mauritanie, les chefs d'État ouest-africains ont estimé qu'elle devrait plutôt présenter une demande de pleine adhésion, selon le communiqué final. Pour rappel, Nouakchott avait quitté la CEDEAO en 2000, préférant son appartenance à l'Union du Maghreb arabe, l'UMA, qu'elle partage avec l'Algérie, la Libye, le Maroc et la Tunisie.
Et à noter qu'en marge du sommet, Israël et le Sénégal ont réparé leurs relations diplomatiques lors d'une rencontre entre Benjamin Netanyahou et le président Macky Sall. Ces relations s'étaient dégradées en décembre dernier quand le Sénégal avait coparrainé au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution condamnant les implantations juives dans les territoires palestiniens.
Au Maroc, malgré les arrestations, la contestation populaire ne faiblit pas dans le nord, où l'État, après avoir choisi l'option sécurité, voit sa marge de manœuvre se réduire pour désamorcer la colère, selon la presse. Dimanche soir, pour la 9e nuit consécutive, de nouveaux rassemblements se sont déroulés dans la ville d'Al-Hoceima et d'autres localités exigeant la libération de Nasser Zefzafi, leader emprisonné du mouvement qui anime la contestation.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La coalition militaire arabe intervenant au Yémen sous commandement saoudien a annoncé lundi l'exclusion du Qatar en raison de ce qu'elle a appelé son soutien au terrorisme. Cette mesure a été décidée alors que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte, tous membres de la coalition, venaient d'annoncer la rupture de leurs relations diplomatiques avec le Qatar.
12 personnes ont été arrêtées hier à Londres au lendemain de l'attentat revendiqué par le groupe djihadiste État islamique qui a fait 7 morts et 48 blessé dans le centre de la capitale. L'attentat a été perpétré par une unité de combattants de l'État islamique, a rapporté l'agence de propagande du groupe Hamak. Leur identité n'a pas été publiée par la police. Pour sa part, la première ministre britannique Theresa May a lié l'attentat à l'idéologie malfaisante de l'extrémisme islamiste.
Ce nouvel attentat est le troisième en moins de 3 mois au Royaume-Uni, le plus récent étant celui du 22 mai à Manchester où 22 personnes sont mortes dans un attentat suicide à la sortie d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. Cette dernière s'est produite dans la ville dimanche soir pour un concert géant en hommage aux victimes.
Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat annoncé jeudi dernier par le président Donald Trump continue de susciter des réactions aux États-Unis et dans le monde. De nouveau, Jean-Roger Bion.
L'ancien chef de la diplomatie américaine John Kerry, qui avait pesé de tout son poids pour ficeler l'accord de Paris fin 2015, déplore que l'Amérique ait abandonné son leadership de manière unilatérale. Pour l'ancien vice-président américain Al Gore, héros de la lutte contre le réchauffement climatique, la décision de Donald Trump est insensée, dangereuse et indéfendable. L'Iran aussi l'a qualifié d'irresponsable et range les États-Unis aux côtés des deux seuls pays non signataires, la Syrie et le Nicaragua. Pour Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, l'Afrique, continent le moins pollueur, souffre le plus du changement climatique. Il réitère son soutien total et inconditionnel à l'accord de Paris. En revanche, Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'ONU, a assuré que le président Trump croyait bien au changement climatique. Scott Pruitt, administrateur de l'Agence de protection de l'environnement et grand climato-sceptique, ajoute que le président Trump a reconnu que le climat change et que pour lui, il s'agit de placer l'Amérique d'abord.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Toute la production de pétrole et de gaz est à l'arrêt dans 2 régions du sud tunisien en raison des mouvements sociaux. C'est ce qu'a déclaré vendredi la ministre de l'Énergie, Ella Chekrouhou. La ministre a précisé que l'arrêt s'était déroulé de manière progressive ces 2 derniers mois suite aux manifestations et sit-ins réclamant des emplois et le développement à Tataouine et Kébylie. Depuis près de 2 mois, les habitants de ces régions délaissées réclament une meilleure répartition des richesses et des recrutements prioritaires dans les sociétés pétrolières. La Commission des marchés financiers du Cameroun a invité les épargnants à la plus grande vigilance vis-à-vis de la société dénommée GSM Forex Trading, qui a lancé une campagne de collecte de placements de fonds sur le marché de change local et qui, selon le communiqué des autorités, n'offre pas à ce jour toutes les garanties de transparence et de fiabilité nécessaires à la conduite de telles opérations. Les automobilistes de Côte d'Ivoire vont pouvoir se réjouir. Le prix de l'essence super à la pompe a baissé, passant de 593 à 570 francs CFA le litre, soit une réduction de 23 francs CFA.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
On parle football tout d'abord, le Real Madrid de nouveau au sommet.
Oui, le sacre avec la manière, 4-1 face à la Juventus de Turin en finale de la Ligue des Champions. Deuxième victoire d'affilée pour le club merengue, également pour Zinedine Zidane. Et le héros de cette rencontre a pour nom Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé.
La Ligue des Champions, c'est aussi sur le continent africain.
On a joué la troisième journée des matchs de poule ce week-end. Et dans le groupe C, défaite à domicile des champions en titre, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns battus 2-1 par l'Espérance de Tunis. Conséquence, les Tunisiens prennent seuls la tête du groupe. Dans l'autre match, rien ne va pour l'SV Club de Kinshasa. Battu 1-0 par les Éthiopiens de Saint-Georges, les Congolais ont enregistré leur troisième défaite dans cette phase de poule.
Dans le groupe A, l'étoile du Sahel garde le contrôle.
Les Tunisiens accrochés à domicile 1-1 par Al Hilal du Soudan sont toujours leaders du groupe avec 7 points devant les Mozambicains de Ferroviaro. Première place également pour Zamalek dans la poule B, malgré son nul 1-1 concédé à domicile face à l'USM Alger. Dans la poule D, Al Ahly est sorti vainqueur de sa confrontation contre le Wydad de Casablanca 2-0. Le club Kerot vit en tête du groupe avec les Zambiens de Zanaco victorieux des Camerounais de Coton Sport de Garoua 2-1.
Quatrième journée également en Coupe de la Confédération et le TP Mazembe a été accroché à domicile.
Les Congolais ont été contraints au partage des points à domicile par Supersport, 2-2. Ils partagent tout de même la première place avec les Sud-Africains, tout comme les Guinéens de Oroya, vainqueur du CF Mounana 1-0. Et puis le match tant attendu de cette troisième journée a eu lieu dans la poule A et a vu le Fus de Rabat battre le club africain de Tunis 2-1. Les Marocains sont seuls en tête au classement avec 6 points devant les Tunisiens qui comptent eux 3. Notons le succès des Ougandais de Kampala City 2-1 face aux Nigériens de Rivers United.
Élisée, la phase de groupe des éliminatoires pour la CAN 2019 débute le 9 juin prochain. Des sélections profite pour livrer des matchs de préparation.
Et hier, la Côte d'Ivoire a pris de l'eau devant les Pays-Bas, vainqueur 5-0. Le Lesotho a battu la Mauritanie 1-0 à Pretoria en Afrique du Sud. Les éperviers du Togo, eux, se sont repris en battant les Comores à Marseille sur le score de 2-0. À Libreville, les Panthers ont concédé un nul blanc décevant face à une équipe zambienne pourtant très remaniée.
On parle à présent du Mondial Junior en Corée du Sud. La Zambie, seul représentant africain encore en lice, joue aujourd'hui son quart de finale.
Les Chipolo Polo Junior vont en dégoudre avec l'Italie. Coup d'envoi du match à 8h temps universel. Le dernier quart de ce mondial des moins de 20 ans mettra aux prises le Mexique à l'Angleterre. Pour les premiers résultats, notons la qualification du Venezuela 2-1 après prolongation face aux États-Unis. Ça passe aussi pour l'Uruguay devant le Portugal, mais au tir au but 5-4, 2-2 après les 120 minutes de jeu.
Tennis avec les internationaux de France et Kevin Anderson qualifié en 8e.
Oui, et c'est au thème d'un match fou que le Sud-Africain s'est débarrassé de Carl Edmund en 5-7, 6-7, 7-6, 5-7, 6-1 et 6-4. Le 56e joueur mondial affronte en 8e Marlene Cilic, tombeur de Feliciano Lopez. Et puis, du basketball, Idrissa, est-ce que les Cavaliers de Cleveland ont refait leur état dans le match 2 de la finale NBA?
Non, malheureusement, pour les fans de Cleveland et de LeBron James, Golden State a pris le large dans la finale NBA grâce à Stephen Curry et Kevin Durant. Les Warriors mènent 2-0 face aux Cleveland Cavaliers, submergés 132-113 dimanche à Oakland.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, l'actualité a été dominée par le vote du budget qui devrait permettre au Premier ministre Bruno Tshibala d'organiser des élections et aussi par les sanctions de l'Union européenne contre quelques personnalités congolaises. Retour sur ces deux sujets d'actualité avec Dominique Dinanga de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'organisation des élections, l'amélioration du social des Congolais et la stabilisation de la situation sécuritaire sont parmi les priorités du gouvernement Bruno Tshibala. Le Premier ministre espère accomplir ses missions avec le projet de budget présenté mercredi dernier à l'Assemblée nationale. Projet de budget évalué à près de 11 300 milliards de francs congolais, soit environ 8 milliards de dollars. Concernant les élections prévues à la fin de cette année, conformément à l'accord politique dit de la Saint-Sylvestre, le Premier ministre et son gouvernement pensent mobiliser 1 169 milliards de francs congolais, soit près de 800 millions de dollars sur ressources propres. Il compte également sur l'appui des partenaires internationaux. Bruno Tshibala.
Les élections occupent une place de choix dans le budget. Sur ressources propres, le gouvernement entend débourser 1 169 milliards de francs congolais pour l'organisation des 3 scrutins prévus d'ici la fin de cette année. Nous attendons des partenaires au développement, des apports financiers et techniques à convenir avec le
Ce projet de loi des finances exercice 2017 a été diversement commenté dans les milieux politiques. Certains députés nationaux l'ont qualifié d'irréaliste car ne tenant pas compte des réalités du pays. Et d'autres ont émis des doutes quant à la mobilisation des fonds nécessaires pour l'organisation des élections.
Le projet de budget n'explicite pas la source de financement des élections. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement n'est pas en mesure de financer les élections. Alors, à quoi jouez-vous ?
Que le Premier ministre me dise comment compte-t-il obtenir l'aide prévue avec la présence dans son gouvernement des ministres sanctionnés.
Déclaré recevable par l'Assemblée nationale, le projet de loi des finances est actuellement au niveau de la Commission économico-financière pour amélioration avant d'être soumis au vote, cette fois-ci au Sénat, et promulgué finalement par le président de la République. Un autre fait ayant défrayé la chronique, ce sont des nouvelles sanctions européennes contre 9 hauts responsables congolais, dont 2 ministres en fonction et 3 responsables militaires. Ils sont accusés notamment d'entrave au processus démocratique. D'après Catherine Rey, porte-parole de l'Union européenne, l'objectif est d'accompagner la République démocratique du Congo vers des élections crédibles, transparentes et apaisées, qui d'après elle constituent la solution aux multiples problèmes qu'elle connaît le pays.
Pourquoi est-ce que le Conseil a fait ça aujourd'hui ? Parce que ça exprime en fait notre inquiétude sur les questions des droits de l'homme et en particulier la situation dans les Kasaï. On comprend que la violence et la situation des droits de l'homme, qui sont en l'occurrence dramatiques dans cette province, ne peut pas être dissociée de l'impasse politique à Kinshasa. Et en fait notre objectif c'est d'accompagner le pays vers des élections crédibles, transparentes, puisqu'on pense que c'est la seule solution durable.
Plusieurs cadres de l'opposition politique ont salué ces sanctions alors que le gouvernement n'y a toujours pas réagi. Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Burundi, des enfants âgés de 13 à 17 ans qui ont échoué au premier cycle du secondaire ne savent pas ce que leur réserve l'avenir. Ils sont plus de 80 000 qui viennent de passer ainsi toute une année sans étudier. Il y a eu la création de centres d'enseignement technique, mais il manque cruellement de matériel didactique et d'enseignants qualifiés. Certains enfants font de petits boulots, d'autres restent purement et simplement à la maison. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunziza, en a rencontré quelques-uns dans différents quartiers de la ville.
Un groupe d'élèves est assis sous de petits arbustes ombragés qui sont en face de l'ancien stade de football qui n'est plus opérationnel au centre-ville de Bujumbura. Ils discutent entre eux si l'interview se déroule en français, langue officielle d'enseignement ou en kirundi, langue nationale. Après quelques minutes de tractation, tous acceptent de parler dans l'une des 3 langues qui sont usitées au Burundi, le français, le kirundi et le swahili. Ce groupe d'élèves ont raté l'examen fondamental de l'année 2015-2016. L'ancien élève de 10e qui s'occupe avec sa maman de son bistrot à Buisa affirme que son vœu est le premier de pouvoir passer les tests.
Je vis à la maison, désœuvré, je le vis très mal depuis presque une année. Car avant, j'étais élève, je demande au gouvernement.
gouvernement burundais de nous donner une autre chance pour pouvoir passer le test. Ce sera notre dernière chance et l'État aura bien fait de nous faire passer un dernier test.
Âgé de 15 ans, cet autre élève d'une école privée ne demande qu'à repasser son test.
Quand j'ai échoué le test, mon rêve était de terminer mon école. Je ne vois aucune perspective. Maintenant, je ne fais rien. Si c'est possible, qu'on refait encore les tests.
Joueur de football dans un quartier de Bujumbura, cet ancien élève de 10e ne voit rien pointer à l'horizon.
J'étudiais en 10e année l'année dernière. J'ai échoué au test. Maintenant, je suis à la maison, je ne fais rien. Je suis comme un enfant de la rue et ce n'est pas bien parce que je suis encore jeune, je dois étudier. Ma mère a un bistrot, je l'aide de temps à autre quand il y a du travail, mais ce n'est pas un travail rémunéré. Je demande que le gouvernement revoie ce système de l'école fondamentale. Beaucoup de ces enfants sont des enfants de la rue qui deviennent des voleurs à la fin.
Cette question préoccupe la Fédération nationale des associations œuvrant dans le domaine de l'enfance. Jacques Chimirimana, son président, reconnaît que les parents ont vraiment du travail.
L'année passée, ce système a éjecté autour de 88 000 élèves qui se trouvent aujourd'hui à la maison, qui attendent de repasser le test de l'école fondamentale et qui sont communément appelés des élèves autodidactes. C'est un fardeau très lourd pour les parents et pour la société en général.
Le secrétaire national de l'association des parents d'élèves estime que chaque parent voudrait que son enfant termine tous les cycles d'enseignement. Mais Séverin Nyamoyenzi connaît les conséquences néfastes pour des élèves qui viennent de passer une année sans étudier.
Alors, certains peuvent aller chercher du travail. D'autres peuvent sombrer dans la délinquance. Les jeunes filles, grossesses non désirées. Les jeunes garçons, eux, ils peuvent aussi tomber dans la délinquance. Vagabondage en général.
Le ministère de l'Enseignement avait accepté que ces élèves qui ont échoué pouvaient repasser leur test au courant de cette année scolaire. Contacté, le porte-parole du ministère nous a indiqué qu'il reprend le travail dans la deuxième moitié de ce mois de juin. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En République centrafricaine, le retrait des forces américaines et ougandaises de lutte contre la LRA inquiète les populations du sud-est. Dans la ville d'Obo, où sont basés ces militaires, les habitants craignent pour leur sécurité une fois ces troupes parties. Reportage de Freeman Sipila.
Ici, au centre d'Obo, l'annonce du retrait de ces forces internationales ne cesse d'alimenter les débats. Même si un calme apparent y règne, les habitants sont entre psychose et inquiétude. Abbé Christian Mwanabolanga, vicaire de la paroisse Saint-Charles Luanga d'Obo.
Vraiment, c'est ce qui nous inquiète le plus. Dernièrement, les Ougandais, ils ont manifesté leur départ et puis ils ont fait la cérémonie de clôture. Ils ont remis tout à nos forces locales, c'est-à-dire le FACA. Mais force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup de FACA. Nous n'avons que 38. Mais 38 ne peuvent pas couvrir Ombom. Et ça pose un sérieux problème parce que même à Obo, pour que la sécurité soit vraiment bien assurée, il faut avoir plus de 70 militaires. Vraiment, ça pose un problème pour le départ de ces forces armées.
Ricardo est journaliste à la radio locale. Pour lui, le retrait des militaires étrangers donnera l'occasion aux groupes armés tels que Antibalaka et Ex-Silika de semer la désolation parmi la population.
Si il y a encore l'arrivée des Antibalaka, l'arrivée des Seleka dans la région. Avec ce conflit-là, je crois que la population sera mise à plat. On ne saura plus où aller, ou bien aller dans la brousse parce qu'il y a la LRA là-bas, ou bien rester dans la ville pour être tué par les Seleka ou par les Antibalaka.
Le préfet du Ombomou est lui aussi perturbé par l'annonce du retrait des soldats américains et ougandais. Il dit ne pas comprendre cette décision alors que l'armée de résistance du Seigneur n'est pas encore affaiblie. Ghislain Diobini Kolingo.
Je suis inquiet parce que la LRA n'est pas encore affaiblie et la LRA continue ses exactions, ses atrocités sur ma population. Donc je suis inquiet. Je souhaite vivement que le gouvernement de la République centrafricaine et le gouvernement des États-Unis mettent sur table une coopération militaire bilatérale pour que cette fois-ci l'armée américaine s'occupe des forces armées centrafricaines, disons, appuie les FACA dans leurs efforts de sécuriser non seulement le Ombomou, mais toutes les parties qui sont encore dans l'insécurité.
Le départ de ces troupes ne crée pas seulement des soucis sur le plan sécuritaire. Les commerçants sont aussi affectés car ils n'auront plus à profiter des véhicules de l'UPDF, l'armée ougandaise, pour le ravitaillement de la ville en marchandises et en produits alimentaires. Nos marchandises proviennent de l'Ouganda. Les prix sont chers parce qu'il n'y a pas de moyens de transport sur l'axe, explique Monique, commerçante. Ce sont les militaires ougandais qui nous aident avec leurs véhicules. S'ils se retirent, nous ne saurons quoi faire, déclare-t-elle. l'Ouganda a déjà commencé à rapatrier ses troupes alors que le calendrier des Américains n'est pas encore officiellement connu. Freeman Sipila, Obo, VOA Afrique.
Au Mali, l'Assemblée nationale a adopté le projet de texte de révision constitutionnelle qui sera soumis à référendum. Par cette adoption, l'architecture institutionnelle du pays va changer avec la création du Sénat et celle de la Cour des comptes. Mais le mandat présidentiel reste à 5 ans, renouvelable une fois. La révision prend en compte les aspects constitutionnels de l'accord issu du processus d'Alger en 2015, nous dit notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Il était 2h47 du matin, le samedi 3 juin 2017, quand les élus de la nation adoptèrent le projet de révision constitutionnelle au Mali. Cela à la suite de 80 jours d'écoute et 3 jours d'intenses débats. Le projet en question était défendu par le ministre des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'État, Maître Kassoum Tap.
C'est simplement de permettre la mise en œuvre de l'accord en conformité avec nos lois fondamentales. Le Sénat, aujourd'hui, ce Sénat permet simplement de représenter toutes les collectivités territoriales. La deuxième adaptation, et ça nous permet d'arriver à une concorde totale.
Avec la constitution révisée, il n'y a plus d'institution de haute cour de la justice au Mali, qui était censée juger le président de la République. Elle est remplacée par la Cour des comptes. La constitution révisée affirme dans son préambule l'engagement du peuple malien à rester fidèle aux idéaux des hommes et femmes qui se sont battus contre la conquête coloniale, l'indépendance et l'avènement d'un état de droit et de démocratie pluraliste. Les députés de la majorité se réjouissent de l'adoption de cette loi.
Le texte que nous venons de voter est la meilleure réponse que notre peuple peut donner à ceux qui pensent qu'il y a des lenteurs dans l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation.
L'acte que nous venons de poser est historique et porteur d'espoir. Des lacunes liées au fonctionnement de notre République sont comblées et des innovations importantes ont été apportées à la structure et à l'exercice des pouvoirs et des compétences des institutions.
L'opposition parlementaire en bloc n'a pas voté cette révision constitutionnelle parce que la proposition finale du document ne prenait pas en compte certaines de leurs préoccupations. Honorable Modi Ndiaye de l'URD.
Il était question dans les amendements de renforcer les pouvoirs du président de la République. Le second aspect de notre réserve, ça porte sur la désignation des sénateurs. Nous avons estimé également que dans l'ordre des choses, qu'il était bon d'introduire la destitution du président de la République. Il était tout à fait de bon temps, selon nous, de prévoir, en cas de manquement grave au devoir du premier responsable de la nation, qu'il se soumette au rigueur de la loi.
Les députés de la majorité trouvent que l'opposition a voté le projet de loi, car elle a été d'accord avec 66 des 75 amendements apportés au texte final.
Mais sur l'essentiel, ils ont voté. La révision constitutionnelle que nous venons de faire porte des choses très majeures. Vous le savez très bien, la création du Sénat, le nomadisme politique, ça c'est le vœu qui est souhaité par tous les partis politiques depuis très longtemps. Et c'est une moralisation de la vie politique. Au-delà de ça, vous savez qu'on ne peut pas continuer à copier et coller. Nous avons adopté le Sénat à la réalité du pays. Donc quand vous voyez que d'autres vont dire que dans d'autres lieux, le Sénat, tout le monde est élu. Et ici, il y a des élus, il y a des nommés. C'est l'accord qui nous impose cela. Il faut aller à ça.
Après cette étape, il est attendu le 9 juin prochain les référendums pour permettre au peuple malien d'accepter ou de rejeter les 10 textes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou de RM Show en direct de Washington DC sur VOA Afrique. Notre sujet de cette semaine, l'influence des parents dans le couple. Ah oui, un sujet très très important. Ne ratez pas cette émission les amis, vos opinions en direct sera au 001-202-205-2633. Encore une fois, c'est au 001-202-205-2633 ou alors vos messages WhatsApp ou Viber au 001-703-350-3731. Vous allez aussi nous regarder, nous suivre en live sur Facebook Live VOA Afrique. RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydou Dia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.